marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il ne faut en aucun cas laisser les gouvernements écrire seuls l'histoire.
La parole des présidents.
Que pensez-vous de l'allocution du président de la République ?
Ben, je vous dis, je ne l'ai pas écouté, je ne peux pas vous dire, mais j'estime qu'il n'y a rien de changé, que pour nous, c'est trop tard, tout ce qu'il a dit, c'est trop tard.
Ben, c'est-à-dire, je me mets un peu à la place de notre président. Là. Il doit être pas mal embêté avec tous les événements qui se produisent à l'heure actuelle. Seulement, voyez-vous vraiment une solution à ces événements ? Moi, je n'en vois pas la moindre.
Il a dit ce qu'avaient dit tous les journalistes quelques jours avant, quoi.
Eh bien, moi, je pense que le discours d'hier soir dénote que la légalité doit être respectée. Il y a des gens qui ont été élus au suffrage universel. La Constitution a été proclamée après une élection au suffrage universel. Le président de la République aussi, les députés aussi. Quand on se casse la figure, on dit c'est de la faute à De Gaulle. Si on a une contravention, c'est de la faute à De Gaulle. Eh bien, tout cela, évidemment, c'est très facile. Mais moi, je considère que les agents de police, les gardiens de la paix, des CRS, qui sont matraqués, qui sont assaillis de coups de cailloux, de boulons, qui sont insultés nuit et jour et qui sont obligés d'être calmes, eh bien, moi, je les admire de ne pas avoir fait plus de mal qu'ils n'ont fait.
25 mai 68, après une première allocution du général de Gaulle, dans la crise de ce mois, l'analogie avec ce mouvement a ses limites. Emmanuel Macron, soit dit en passant, a bien fait de ne pas célébrer le cinquantenaire de mai 68, comme certains le lui suggéraient. « Nous avons changé d'époque », aurait-il dit. Les historiens en sont les premiers convaincus. Un signe parmi d'autres. En mai, les mécontents, on a entendu un micro-trottoir, n'avaient pas la possibilité de se brancher sur Facebook et de devenir chacun un média, ou au moins de partager en une seconde les messages de leurs proches. Aujourd'hui, la représentation du pays façon puzzle s'en trouve aggravée. Un flot d'informations, vraies ou fausses, roule en grossissant. Pourtant, les manifestants sont aujourd'hui beaucoup moins nombreux qu'en mai. Ils se présentent comme des travailleurs et non comme des grévistes. Aussi, la semaine, le pays fonctionne-t-il qu'à un cas, la révolution n'a lieu que le week-end. Et pour l'heure, toutes les crises qui surgissent ne se lient pas entre elles. Autre différence qui concerne le fonctionnement du pouvoir exécutif. En mai, le Premier ministre Georges Pompidou s'était comme échappé de la tutelle de l'Élysée. Il avait pris l'initiative de réunir les syndicats à Grenelle, alors que le général de Gaulle n'était qu'à demi-convaincu et que le ministre des Finances, Michel Debré, refusait rageusement. Paradoxalement, l'Élysée était sans doute moins centrale qu'aujourd'hui. Néanmoins, comme aujourd'hui, la parole du président était très attendue. Ceux qui croyaient à la puissance d'enchantement de cette parole imaginaient qu'elle allait faire rentrer le fleuve dans son gué. Les plus réalistes imaginaient qu'il allait trouver un passage.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le général de Gaulle intervient donc pour la première fois à la télévision le 24 mai. Il ne va pas se résoudre à dire que la crise est une chance. Volontiers pessimiste, il est persuadé au plus profond de lui-même que le pays s'abandonne, une fois de plus, à ses démons. Il va, toutefois, insister sur la nécessité d'une mutation, d'une rénovation. C'est un vocabulaire qu'il préfère à celui de la réforme. Et bien entendu, c'est à lui de porter cette transformation. Il va donc proposer son arme favorite, le référendum. Un référendum qui lui donnerait mandat, dit-il, pour organiser à la base des mécanismes nouveaux de participation. Le tout est annoncé, dira François Mauriac, un converti pourtant, d'un ton un peu las, comme déjà détaché.
La crise de l'université, crise provoquée par l'impuissance de ce grand corps à s'adapter aux nécessités modernes de la nation, ainsi qu'au rôle et à l'emploi des jeunes, a déclenché dans beaucoup d'autres milieux une marée de désordre, d'abandon ou d'arrêt du travail. Il en résulte que notre pays est au bord de la paralysie. Devant nous-mêmes et devant le monde, nous, Français, devons régler un problème essentiel que nous pose notre époque, à moins que nous ne roulions à travers la guerre civile, aux aventures et aux usurpations les plus odieuses et les plus ruineuses. Depuis bientôt 30 ans, les événements m'ont imposé en plusieurs graves occasions le devoir d'amener notre pays à assumer son propre destin afin d'empêcher que certains ne s'en chargent malgré lui. J'y suis prêt, cette fois encore. Mais cette fois encore, cette fois surtout, j'ai besoin, oui, j'ai besoin que le peuple français dise qu'il le veut. Or, notre Constitution prévoit justement par quelle voie il peut le faire. C'est la voie la plus directe et la plus démocratique possible, celle du référendum. Compte tenu de la situation tout à fait exceptionnelle où nous sommes, et sur la proposition du gouvernement, j'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État et d'abord à son chef un mandat pour la rénovation. Adapter notre économie non pas aux catégories diverses des intérêts particuliers, mais aux nécessités nationales et internationales, en améliorant les conditions de vie et de travail du personnel, des services publics et des entreprises, en organisant sa participation aux responsabilités professionnelles, en étendant la formation des jeunes, en assurant leur emploi, en mettant en œuvre les activités industrielles et agricoles dans le cadre de nos régions. Tel est le but que la nation doit se fixer elle-même.
Les transistors sont toujours dans la rue et c'est près de la gare de Lyon que la foule écoute De Gaulle.
Française, Français,
au cas
où votre réponse serait non, il va de soi que je n'assumerai pas plus longtemps ma fonction. Si par un oui massif.
Oui, Edouard de Blaye, j'espère que vous m'entendez. Je suis très bien. Sur un balcon qui domine la place de la gare de Lyon. Il y a environ ici 25 à 30 000 personnes qui attendent. Il y a quelques instants, une voiture haut-parleur a diffusé une déclaration de Daniel Cohn-Bendit. On a entendu Daniel Cohn-Bendit parler. Vous dire exactement ce qu'il a dit, c'est impossible parce que j'étais très loin de la voiture haut-parleur et il y a beaucoup, beaucoup de bruit, vous l'imaginez, sur cette place de la gare de Lyon.
Oui, je vous écoute.
Le son est assez faible.
Et oui, le son est assez faible. Cette nuit du 24 mai 68, c'était sans doute pas le bon soir pour parler. Le général reconnaîtra plus tard avoir visé à côté de la plaque, trop loin certainement. Exit le référendum. En pareille circonstance, il aurait fallu un message applicable immédiatement et qui soit simple, univoque, lisible autrement qu'en pièces détachées.
Il va être 21h et c'est déjà l'accrochage. Il est inévitable d'ailleurs. À la Bastille, les étudiants se heurtent à un barrage de police. La manifestation éclate. On se bat près de l'hôpital des 15-20. On se bat rue de Lyon. On allume des incendies au Hall. On prend la bourse d'assaut.
Il est 3h30. Je viens de téléphoner au préfet de police. C'est pas encore fini. Ça va être fini dans quelques minutes. Ou une demi-heure, peut-être une heure. Il y a encore deux ou trois barricades sur lesquelles se battent la pègre. La pègre, on sait très bien ce que c'est que la pègre, c'est-à-dire ce qui sort du fin fond des pavés de Paris quand il y a de mauvais coups à donner. Et pour cette pègre, les mauvais coups peuvent être à tout moment. Et j'ai eu tout à fait raison de le rappeler ce matin dans un communiqué que j'ai fait passer dans la presse. À tout moment, ces coups peuvent être des coups, encore une fois, je me répète, vous m'excuserez, il est 3h30 du matin, je suis peut-être un peu fatigué, des coups meurtriers. Et puis il y a autre chose, il y a les anarchistes. Les anarchistes, les hommes au drapeau noir, qui recouvrent toutes sortes de choses sur lesquelles je ne veux pas m'apesantir à cette heure-ci de la journée, mais je sais très bien ce que je veux dire. Et alors ces anarchistes, eux, c'est tout à fait délibérément qu'ils mènent cette affaire.
Que pensez-vous des manifestations et des bagarres entre étudiants et policiers à Paris ?
Les étudiants sont pas seuls en cause par quelques meneurs. Mais je suppose qu'ils ont suffisamment d'intelligence pour pas se laisser mener par une bande d'imbéciles.
Ah, je n'approuve pas ça. Je n'approuve pas les machines de force.
J'étais à Paris, je pense qu'en province on peut quand même pas se rendre compte exactement de la même façon, de la façon dont se passent les événements, parce qu'à Paris vous êtes ici par exemple et au coin de rue vous avez des dizaines de camions de police et la réaction est un peu normale quand vous voyez des hommes casqués, avec des matraques et on réagit autrement et on est tenté.
Je suis contre les bagarres, parce que j'estime que c'est pas par la force qu'on peut obtenir quelque chose. La violence n'a jamais apporté quelque chose de bon.
Fin mai 68, l'opposition déjà forte à l'Assemblée depuis les élections de l'année précédente n'aurait pas été loin d'accéder, avec l'aide de quelques ralliements, à la majorité. N'était la position du Parti communiste alors très important. Il s'arc-boute sur l'enseignement de Lénine qui dénonce l'infantilisme en politique. Les comportements imprévisibles des gauchistes lui font horreur. La conjonction des luttes entre étudiants et ouvriers lui paraît le principal péril à conjurer. Aujourd'hui, les insoumis disent que le peuple ne doit pas descendre de la table sur laquelle il est monté. En mai 68, les cégétistes, alors étroitement liés aux communistes, ont de suite accepté de s'asseoir à la table des négociations de Grenelle. Les leaders de la gauche non communiste, comme on disait encore, sont à la peine pour trouver une issue.
C'est maintenant M. François Mitterrand, président de la Fédération de la gauche, la fédération dont le bureau politique, soit dit en passant, se réunit ce matin à 11h.
Au moment où le pays, ouvriers et étudiants, paysans et professeurs, exigent le dialogue, le chef de l'État ne trouve d'autre issue à la crise dont il est responsable que dans le renforcement de son pouvoir.
M. Mendès-France estime que le peuple exige maintenant de se voir reconnaître la dignité et le droit de prendre lui-même ses décisions et de ne pas continuer à s'en remettre à la volonté d'un seul. Pour M. Rocard, secrétaire général du PSU, ce discours ne change rien. Il ne s'agit plus actuellement d'une crise de gouvernement, mais d'une crise de régime.
27-28 mai, la situation devient inextricable après que la base cégétiste a refusé le protocole d'accord de Grenelle. Le Premier ministre, Georges Pompidou, est interrompu dans son sprint, dans ce couloir qu'il a choisi. Le relais doit être pris dans l'autre couloir de l'exécutif par le général de Gaulle. On le décrit à cet instant comme un homme amer, seul, vieilli, 78 ans, prêt à poser le sac. Le 29, en secret, sans même prévenir Georges Pompidou, il s'envole en hélicoptère à la rencontre du chef des armées, alors stationné en Allemagne, le général Massu. Après une discussion à Baden-Baden, et après avoir constaté devant un plateau de viande froide que les carottes n'étaient pas cuites, il décide de reboucler son sac. Il donne l'ordre de rejoindre Colombey. À peine y est-il revenu dans les radars et s'est-il posé chez lui qu'il a déjà remporté la mise. En disparaissant, le père du pays a créé un effet de panique. On ne le hait plus. Dès lors qu'il revient, il rassure. Le reste ensuite, c'est une affaire de tactique. Le 30, le général va parler à l'improviste, non pas à 20h, mais à 16h30 et à la radio. C'est un moyen d'éviter de montrer un visage fatigué et aussi de revivifier le mythe de Londres. Et son message ne s'embarrasse pas de nuances et de litotes. Il simplifie à gros traits pour être compris.
Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités sans exception qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai.
Je ne démissionnerai pas. Je ne démissionnerai pas.
Pierre Chaunu.
C'était fini, c'était gagné. Bon, ce simple mot, si vous voulez, les gens attendaient, c'était le contre-choc. Parce que de toute façon, le 30 mai, ils en avaient marre tous. Hein. Tous en avaient marre, ça avait cessé d'amuser par tout le monde. Mais on savait très bien que ce jour-là, c'était gagné.
Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre. La France, en effet, est menacée de dictature. On veut la contraindre à se résigner à un pouvoir qui s'imposerait dans le désespoir national. Lequel pouvoir serait alors évidemment essentiellement celui du vainqueur, c'est-à-dire celui du communisme totalitaire. Naturellement, on le colorerait pour commencer d'une apparence trompeuse en utilisant l'ambition et la haine de politiciens au rancard, après quoi ces personnages ne pèseraient pas plus que leur poids qui ne serait pas lourd. Eh bien non, la République n'abdiquera pas, le peuple se ressaisira, le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France.
Une particularité du gaullisme, c'est qu'il repose sur une base de compagnons, rien à voir avec les marcheurs d'aujourd'hui. Il s'agit plutôt de marathoniens qui ont participé, souvent depuis Londres, aux batailles les plus diverses. Les combats ouverts, les complots secrets. Grognards de toutes origines, ils sont capables de faire remonter les états d'âme du pays au général qui les reçoit et les flatte régulièrement. Aussi, dans les circonstances exceptionnelles, mettent-ils leurs intérêts personnels dans leur poche et ils sont capables de monter en deux temps trois mouvements une manifestation monstre qui n'a ceci de commun avec celle d'aujourd'hui qu'elle élit les Champs-Élysées.
Moi, je me trouve devant le rond-point des Champs-Élysées. Je suis au premier étage du journal Le Figaro, où passe en ce moment, si vous voulez, le corps de la manifestation. Les manifestants passant devant Le Figaro crient tous le même slogan, Le Figaro avec nous, Le Figaro avec nous. En tête du cortège, donc, un immense drapeau tricolore frappé d'une croix de Lorraine. Derrière, les associations d'anciens combattants, beaucoup de drapeaux tricolores, Marc Alvarez vous l'a dit, et puis derrière ces drapeaux tricolores, à quelques mètres, si vous voulez, de la tête du cortège, des ministres. Parmi ces ministres, messieurs Debray, Malraux et Schuman. Monsieur le ministre, quel est pour vous le sens de cette manifestation?
Un grand journaliste a écrit récemment, hier ou avant-hier, De Gaulle seul. Nous en faisons la démonstration.
Et un autre grand journaliste, Pierson Ponté, dit « Eh bien, le peuple de France a montré ce 31 mai un autre profil qu'au début du mois. Le pouvoir peut penser que le maléfice est conjuré, l'aiguillette dénouée, au moins provisoirement. »
C'est si drôle que tu fais rire les enfants. Ils te prennent tous pour un guignol. Ils t'imitent le soir en mangeant. Jacques, tu es si grand que toutes les petites vieilles t'adulent. Elles voudraient que tu les embrasses. Elles voudraient que tu les ramasses. Oh Jacques. Si lourd que la terre s'effondre sous ton poids, que tes mains ne nous trompent pas, que tes mots ne nous touchent pas. Jacques, tu es si lourd que même les sourds se rient de toi, que même les aveugles te voient, piétinent ce que tu n'aimes pas. Oh Jacques. Tu accroches follement aux herbes des avions qui survolent tes mensonges et blanchissent tes tracas le soir. Je suis sûr que tu ne la touches même pas. Tu lui dis bien que tu mérites, mais comme nous, elle ne te croit pas. Oh, chat.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La familiarité avec le président et en même temps l'attente de la parole, et là je mets des majuscules, du président. Avec la chanson de Mickey 3D, on devine qu'on a changé d'époque. Le gaullisme n'est plus qu'une référence. Jacques Chirac en parle le moins souvent possible. À la veille de son élection, il disait que c'était un pragmatisme, mais de haut vol. De Gaulle, à l'en croire, choisissait empiriquement la voie qui était la meilleure. Quant à lui, après son élection, il choisit celle qu'il a dissimulée pendant sa campagne. Il avait parlé de fracture sociale, ce sera la rigueur budgétaire avec Alain Juppé à Matignon. Et Philippe Seguin, qui a été écarté, commente avec moi, cela aurait pu être la révolution, mais au moins il se serait passé quelque chose. Enfin, on se souvient qu'avec Alain Juppé, il s'est tout de même passé quelque chose, puisque son plan de réforme a mis de nouveau la France à vif. Ça, c'est le premier septennat avec la crise de 95. Philippe Seguin, toujours lui, au lendemain de la présidentielle, on avait les moyens d'agir. Maintenant, on a ceux de perdre les législatives. Néanmoins, Jacques Chirac gagne une deuxième présidentielle. Mais on sait que le 21 avril 2002, il s'est passé quelque chose. Et aussi, le 29 mai 2005, quand échoue son référendum sur le projet de constitution européenne. Une bonne partie de la population entre dans un no man's land politique. Elle avait entendu que la politique, c'était l'art de rendre possible ce qui était nécessaire. Ne devient-elle pas la méthode pour rendre impossible, ce qui est indispensable. Impossible ce qui est indispensable. Dernière étape pour Jacques Chirac, les émeutes de banlieue de la fin 2005. Peu après que son ministre de l'Intérieur avait promis sur la dalle d'Argenteuil de nettoyer au Karcher la racaille, deux jeunes gens de Clichy-sous-Bois, poursuivis par la police, se trouvent pris au piège d'un transformateur EDF et ils vont mourir. Et le président de la République va devoir intervenir. Alors ça, c'est un son un peu particulier, un style un peu unique, comme il s'agissait de mettre à l'écart Nicolas Sarkozy. Un conseil de sécurité intérieure se réunit à l'Élysée. C'est sur le perron de l'Élysée que, sans pupitre et sans davantage de cérémonie, le Premier ministre à ses côtés, Jacques Chirac, intervient.
Nous avons pris un certain nombre de décisions de nature à renforcer encore l'action de la police et de la justice, car aujourd'hui, la priorité absolue, c'est le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public. Le dernier mot doit revenir à la loi. La République est tout à fait déterminée par nature à être plus forte que ceux qui veulent semer la violence ou la peur. Et ceux-là seront appréhendés, jugés et punis. Mais nous comprenons bien aussi que l'évolution des choses suppose le respect de chacun, la justice et l'égalité des chances. Et nous sommes tout à fait déterminés à aller dans cette voie et à poursuivre l'effort engagé dans ce domaine.
Partage des tâches, d'ailleurs comme aujourd'hui, la parole du président de la République et puis à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Dominique de Villepin va intervenir. Il rappelle que pendant ces émeutes de la fin 2005, quelques 300 communes ont été touchées, on comparera avec le chiffre d'aujourd'hui. Les équipements publics sont davantage attaqués qu'aujourd'hui. Les effectifs engagés par les forces de l'ordre paraissent à l'époque considérables, mais sont bien moindres qu'aujourd'hui.
Rétablir l'ordre prendra du temps. Cela nécessite un travail en profondeur, un travail de longue haleine. Nous avons mis sur pied des équipes plus légères et plus mobiles, formées aux interpellations en flagrant délit et qui agissent en tenue pour éviter toute provocation, tout malentendu. Nous avons également accru notre effort dans le domaine du renseignement pour surveiller les blogs, les échanges sur Internet et anticiper ainsi le mouvement des bandes. Nous renforcerons également les effectifs des groupements d'intervention régionaux, les GIR, qui ont fait la preuve de leur efficacité dans la lutte contre les trafics. Trafics et économie souterraine qui gangrènent les quartiers. La lutte contre l'argent facile et les patrimoines illicites est essentielle pour dissuader les jeunes de participer à de tels trafics. Je vous rappelle que cette séance est diffusée à la télévision et que nos concitoyens nous regardent.
Nous sommes à l'Assemblée nationale ce 8 novembre 2005. On entendra peut-être la même chose pendant le débat sur la motion de censure et autour des déclarations d'Édouard Philippe aujourd'hui et demain. Le président Chirac a maintenant presque le même âge que le général de Gaulle en 1968. 73 ans, c'est un grand corps, déjà usé, courbé. Sa dernière intervention d'importance.
Nous ne construirons rien de durable sans le respect. Nous ne construirons rien de durable si nous laissons monter, d'où qu'ils viennent, le racisme, l'intolérance, l'injure, l'outrage. Nous ne construirons rien de durable sans combattre ce poison pour la société que sont les discriminations. Nous ne construirons rien de durable si nous ne reconnaissons pas et n'assumons pas la diversité de la société française. Elle est inscrite dans notre histoire, c'est une richesse et c'est une force.
Jacques Chirac, c'était le 14 novembre 2005, j'ai bien dit 2005. Une inquiétude, on pourrait presque dire une angoisse, l'empêchait souvent d'agir. Elle l'habitait depuis très longtemps. Je cite ce texte. « Déjà, dans les banlieues déshéritées, règne une terreur molle. Elle risque d'être prémonitoire. Soyons lucides, nous sommes à la merci d'une explosion sociale qui peut intervenir sans délai. » Des secteurs entiers de l'activité économique, des régions entières sont dévitalisés. Des pans entiers de la société dérivent vers la pauvreté. Plusieurs millions de nos compatriotes sont sur la pente de l'exclusion. Comment ne pas craindre des révoltes ? Ce texte, lui, il date de 1995, 10 ans après cette dernière intervention dont on entendait un extrait. Parfois, on s'en veut de croire encore que les présidents disposeraient d'une baguette magique qui ferait jaillir des sources. Parfois, on leur en veut de transformer en pierre les questions qu'ils ont parfaitement identifiées. La marche de l'histoire a été préparée par Franck Olivard, Martin Cellier, Frédéric Martin et Linka Negilesco. La réalisation, c'était Liscombe et la technique, Michel Bézikian.